Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, avant de vous donner le sermon, petite note, donc j'oublie, surtout pour ceux qui écoutent sur Internet, donc j'ai eu la chance de donner cette semaine dernière une espèce de préparation mariage pour une dizaine de personnes qui se préparaient au mariage. Et j'ai placé ces 7 petits cours. Une bonne heure chacun, sur le site internet. Donc, je vous ai mis avec dans la partie avec les sermons pour que éventuellement ça puisse servir à des personnes qui n'ont pas la possibilité de bien se préparer au mariage, ou tout simplement aussi pour des personnes déjà mariées qui veulent un peu revenir sur certaines choses pour les aider à augmenter l'amour du bon Dieu dans leur ménage. Donc n'hésitez pas à utiliser ces petites conférences que j'ai passées donc sur internet. Je voudrais aujourd'hui, mes bien chers frères, vous parler un petit peu de ces retraites que nous prêchons avec la grâce du bon Dieu à Sainte-Croix du Mont. Vous parler de l'œuvre de Saint-Ignace de Loyola. Pourquoi ? Parce que j'ai remarqué qu'il y a un saint qui est vilipendé aujourd'hui de façon épouvantable, c'est bien lui, Saint-Ignace de Loyola. J'ai eu l'occasion, il y a quelques jours, d'écouter une conférence qui avait été faite par des gens qui se prétendaient catholiques de tradition en plus, attaquant un boulet rouge Saint-Ignace de Loyola. Il faut bien comprendre, mes bien chers frères, que Saint-Ignace de Loyola, c'est que ce n'est pas son vrai nom, son vrai nom c'était... moi j'ai un trou de mémoire, c'est pas grave, ça reviendra. Saint-Ignace de Loyola est à la base de ce qu'on a appelé la contre-réforme catholique. Une des attaques les plus virulentes contre les christianistes, c'est Martin Luther. Martin Luther savait où attaquer, pourquoi ? Parce qu'il était prêtre. Il était prêtre, il était moine augustin. Et pendant des années, il a exercé son ministère, mais malheureusement, il était tombé dans l'orgueil. Tombé suite dans les péchés de chair très vite. Et à cause de cet orgueil, il a tout envoyé promener, abandonné le sacerdoce. Et il s'est mis en ménage avec une sœur qu'il avait sortie d'un couvent. Pour commencer sa propre église, l'église protestante. Et dans ce mot protestantisme, vous avez tout. Le mot protestantisme, qu'est-ce que vous avez ? Je proteste. Proteste contre quoi ? Je proteste contre qui ? Je proteste contre toute forme d'autorité, quelle qu'elle soit. Eh bien, Martin Luther a arraché à l'église des millions et des millions. D'abord dans le nord de l'Allemagne, puis ensuite dans tous les pays de l'Europe du Nord. Après également en Angleterre, à cause de l'apostasie du roi anglais, le roi Henri VIII. Et des millions et des millions de personnes donc, ont été arrachées au sein du sein de l'Église catholique pour être transférées dans une fausse église. Et bien, au même moment, le bon Dieu a converti Saint-Ignace de Loyola, justement pour essayer de le ramener... De ramener le plus d'âmes possible pour occuper ces places qui avaient été abandonnées par ceux qui avaient abandonné l'Église. Et il faut bien comprendre ces choses-là, mes bien chers frères. Le bon Dieu a donc converti cet officier espagnol au même moment où Martin Luther se détachait de l'Église, 1517. Il s'appelait, j'ai retrouvé son nom maintenant en mémoire, López de Oñas. Inigo López de Oñas. On l'appelle Ignace de Loyola tout simplement parce qu'il était né à Loyola et que quand il est parti sur Paris pour se préparer à sacerdoce, il ne savait pas comment traduire son prénom qui était basque, Inigo. En latin, il a mis Ignatius. On l'appelle Ignace de Loyola. Et Ignace de Loyola a vraiment, je dis, passé toute sa vie à lutter contre le protestantisme. C'est la raison pour laquelle son œuvre est absolument fondamentale aujourd'hui. On a vraiment fondamental aujourd'hui parce que ce que nous voyons autour de nous, c'est rien d'autre que les conséquences même du protestantisme. C'est un protestantisme, si vous voulez, qui est encore plus rationaliste, encore plus détaché du Christ que l'était déjà Martin Luther et son protestantisme. Vous savez, quand la Sainte Vierge Marie, après avoir, au moment du début de la conversion de Saint-Ignace de Loyola, alors qu'il faisait pénitence dans la grotte de Morez en Espagne, pas très loin de Barcelone, a reçu la visite de la Très-Sainte Vierge Marie et qui lui a donné les exercices. Souvent, on se demande, mais comment se fait-il que ces exercices soient tellement forts, que les retraites de Saint Ignace soient tellement fortes? Tout simplement parce qu'elles viennent du ciel. C'est un cas unique dans toute l'histoire de l'Église. Notre Seigneur Jésus-Marie a véritablement donné les exercices de Saint, qu'on appelle de Saint Ignace à son fils Saint Ignace pour qu'il les prêche. Et Saint Ignace a organisé tout son apostolat autour des exercices Saint Ignace. Donc il est monté à Paris pour se faire ordonner prêtre avec quelques-uns de ses disciples. Vous savez qu'il est allé à Paris à ce moment-là, il n'y avait pas encore de séminaire, c'était avant le Concile de Trente. Les séminaires ne vont être organisés qu'après le Concile de Trente, donc plus tard, après 1570. Et Saint Ignace va donc regrouper un certain nombre de jeunes autour de lui, dont certains sont très connus. Tous ont entendu parler, Saint François Xavier par exemple. Saint François Xavier qui était un des disciples de Saint Ignace. Et il va commencer à prêcher ses exercices. Prêcher ses exercices pour remettre les cervelles à l'endroit. C'est le but des exercices. Remettre les cervelles à l'endroit au niveau naturel pour que, justement, l'ordre surnaturel puisse venir remplir cette âme. Rappelez-vous la grande formule de saint Thomas d'Aquin, la grâce ne détruit pas la nature. La grâce ne détruit pas la nature, ça veut dire que la grâce du bon Dieu, même si elle est toute puissante, respecte notre libre arbitre. Et donc, pour que cette grâce de Dieu puisse s'établir et travailler sur une âme, il faut que l'âme soit préparée. Et saint Thomas d'Aquin traduit ce point très important par cette phrase lapidaire, la grâce ne détruit pas la nature. Donc, il faut que la nature soit préparée. Je prends toujours un exemple très, 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 très pratique, très simple, pour expliquer cela, quand j'explique ce point de Saint Ignace, c'est saint Thomas d'Aquin, pardon. Imaginez un avion qui cherche à atterrir. S'il n'y a pas de piste d'atterrissage, l'avion ne peut pas atterrir. C'est la même chose pour la grâce. La grâce du bon Dieu ne va pas travailler sur rien. Il faut qu'elle travaille sur quelque chose. C'est quelque chose sur lequel la grâce va travailler, eh bien, c'est tout simplement la nature humaine. Il faut que la nature soit donc préparée. Il faut que l'intelligence soit ouverte au travail de la grâce. Et pour cela, il faut donc remettre en quelque sorte les cervelles à l'endroit pour que, précisément, le bon Dieu puisse travailler sur ses âmes. C'est ce que va faire Saint Ignace. Et Saint Ignace, donc, va détruire ainsi toute l'œuvre maléfique de Martin Luther. Martin Luther, qu'est-ce qu'il disait ? Martin Luther, la formule de Martin Luther qui résume tout protestantisme, ou tous les protestantistes, parce qu'on dit qu'il y a autant de protestantistes que de protestants, la phrase qui résume le protestantisme, c'est crois fermement et pêche plus fermement encore. C'est ce que osait dire Martin Luther. Crois fermement, pêche plus fermement. La foi te sauve. À partir du moment où tu as la foi, tu peux faire tout ce que tu veux. Le bon Dieu t'a sauvé déjà à part ta foi. C'est la foi qui sauve. Donc les autres ne valent rien. Évidemment, c'est très pratique comme ça. Il n'y a qu'une seule chose. Le seul problème, c'est qu'une telle formule ne peut risque pas d'emmener au ciel. Parce que l'ange déchu, le Lucifer et tous les anges de l'enfer, ces gens-là ont la foi, attention. Lucifer croit. Demandez aux démons s'ils croient à la présence réelle. Et comment qu'ils y croient? Demandez aux démons s'ils croient à la force du baptême, la force de Sainte Eucharistie, s'ils croient à la Sainte Messe, s'ils croient à tout l'enseignement de l'Église catholique. Bien sûr qu'ils y croient. Donc qu'est-ce qu'il lui manque? Il lui manque la charité. La charité, c'est quoi? La charité, c'est la pratique de la foi. La foi, c'est donc pas quelque chose qui est dans les nuages. La foi, c'est quelque chose qui va s'appliquer tous les jours. Et c'est justement ce que va faire Saint Ignace avec les exercices de Saint Ignace. Et donc il va les prêcher, envoyer ses Jésus dans le monde entier. Et par cette compagnie de Jésus qu'il a créée, eh bien cette compagnie de Jésus va partir justement dans le monde entier pour rattraper les âmes. Rattraper les âmes, essayer de rattraper les âmes protestantes, ce qui n'a pas été facile. Et surtout, recombler le vide énorme qui avait été fait par Martin Luther, qui avait volé toutes ses âmes à la Sainte Église catholique. Martin Luther, pour lui, le centre, c'est l'homme. L'homme est au centre de tout. On peut dire que Martin Luther est quelqu'un qui divinise l'homme. Qui divinise l'homme, et comme l'homme devient Dieu, selon le protestantisme, à ce moment-là, évidemment, l'homme peut tout décider, faire ce qu'il veut, et ne plus s'obliger à suivre une loi qui vient de quelqu'un d'autre, puisque lui-même devient son propre Dieu, et donc peut avoir ses propres commandements. Au contraire, Saint Ignace de Loyola va tout fonder sur la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est en quelque sorte vider l'homme de sa volonté propre plus pour que notre Seigneur Jésus-Christ puisse venir dans notre âme et prendre totale possession de notre âme. La volonté propre de l'âme, l'individu, ne va pas être détruite, attention, elle va travailler avec la grâce. Voilà ce que va faire Saint Ignace. Alors, mes bien chers frères, pour comprendre un petit peu ces magnifiques exercices de Saint Ignace, pour ceux qui ne le connaissent pas, j'espère bien que tous les adultes pourront les suivre, au moins une fois tous les 2 ans, c'est bien minimum, et même pas les temps qui courent. Je suis sûr qu'il faut bien, les exercices Saint Ignace une fois par an. Les exercices Saint Ignace, si vous voulez, vont suivre en quelque sorte en 5 jours, c'est que Saint Ignace va préparer les exercices pour être prêché en 1 mois. C'était un prêtre espagnol qui s'appelait le Père Valé, au début du XXe siècle, qui a eu cette idée géniale, extraordinaire, de synthétiser des exercices et de les réduire à 5 jours. Ce sont ces retraites que j'ai appris à prêcher lors de ma formation avec Mgr Lefebvre et le Père Bariel, qui nous a donné, qui nous a transmis ce qu'il avait reçu du Père Valé. Les exercices Saint Ignace, en quelque sorte, pour résumer, sont une école de vie intérieure. Une des choses dont nous avons le plus besoin, mes bien chers frères, tous, moi le premier, nous avons besoin d'avoir une véritable vie intérieure. Nous avons besoin d'aimer prier. Pas simplement de prier, mais d'aimer prier. D'où le devoir des parents, non seulement d'apprendre à leurs enfants à prier, mais ce qui est beaucoup plus difficile, d'apprendre à leurs enfants à aimer prier. Et donc, Saint Ignace va nous apprendre à nous donner ce qu'on appelle la vie intérieure. La vie intérieure, c'est bien non pas simplement une prière vocale, mais une prière mentale. Elle nous apprend à prier avec notre esprit. La plupart d'entre nous, nous avons été formés simplement avec des prières vocales. Bien sûr, il faut des prières vocales, des prières qu'on dit avec la voix, c'est nécessaire. Par exemple, quand on prie le chapelet, on prie avec sa voix, c'est évident. Mais le plus important dans l'histoire, dans l'esprit de l'Église, c'est ce qu'on appelle la prière mentale. La prière mentale, c'est la prière qui est faite beaucoup plus avec l'esprit, ce qu'on appelle l'esprit de méditation, l'oraison, la méditation. La plupart de nos fidèles ne savent pas faire oraison, et donc ces exercices Saint Ignace sont une école d'oraison, une école de méditation. Et par cette école, nous apprenons à méditer, nous apprenons à prier, Saint Ignace va élever l'âme et va la monter à travers les 3 degrés de la vie spirituelle. D'abord ce qu'on appelle la vie purgative, c'est la vie de purification, tout à fait au début, qui dure 2 jours et demi. Pendant ces 2 premiers jours de la retraite, eh bien, on se prépare à faire une bonne confession générale pour couvrir toute une partie de notre vie. C'est la volonté des gens, ils font ce qu'ils veulent, soit toute leur vie, soit depuis la dernière retraite, soit 1 an comme ils veulent, soit une confession normale, ils sont absolument libres. Et pendant 2 jours, 2 jours et demi, donc on va apprendre à méditer sur, je dirais, les choses négatives, ce qu'on appelle les fins dernières. On va méditer sur le but de la vie, on va méditer sur l'obstacle pour atteindre ce but qui est le ciel pour nous, c'est-à-dire le péché, et puis les conséquences du péché. Et après les confessions générales, le retour à la communion, on passe avec Saint Ignace dans ce qu'on appelle la vie illuminative. Une fois que notre âme est bien purifiée du péché, à ce moment-là, on peut recevoir les lumières du Saint-Esprit. Illuminare en latin, ça veut dire éclairer. Et puis ensuite, avec la passion, troisième partie des exercices, eh bien, on passe en vie unitive pour s'unir avec notre Seigneur Jésus-Christ. Et cette progression de vie purgative à vie illuminative à vie unitive dans les exercices va donner, si vous voulez, à l'âme une espèce de cuirasse qui va protéger l'âme après contre le démon. Pour ça que on le voit très bien dans l'histoire des exercices Saint Ignace. Ces exercices Saint Ignace ont été donnés par le bon Dieu pour former une élite. Une élite de gens qui ont compris l'importance de la vie d'oraison, de la vie de méditation, pour arriver à enlever l'esprit du monde de leur âme. On peut vraiment dire que l'esprit du monde, c'est l'esprit du protestantisme. Et l'esprit du protestantisme, c'est quoi? C'est le contraire de la vie contemplative. C'est le contraire d'une vie fondée sur la prière mentale. C'est pour ça que dans le monde moderne, protestantisme, c'est vraiment le monde moderne. Le protestantisme et le monde moderne ont horreur de tout ce qui pousse à la prière. Ou horreur du silence, ou horreur de tout ce qui nous facilite la méditation. Alors, Saint Ignace de Loyola, justement, va arracher en quelque sorte c'est les miasmes du protestantisme qui, malheureusement, sont rentrés dans toutes les âmes. Et ces exercices Saint Ignace sont tellement puissants, mais bien chers frères, il faut le savoir, ça, qu'ils peuvent convertir absolument n'importe qui. C'est pour ça que j'accepte n'importe qui à la retraite, à condition qu'il y ait la bonne volonté. À condition que les personnes qui viennent acceptent de suivre les règles de Saint Ignace pour les retraites. Et je peux accepter un païen, je peux accepter un juif, je peux accepter un musulman, je peux accepter un bouddhiste, je peux accepter un protestant, n'importe quelle religion, à condition qu'ils suivent les règles des exercices. Le silence, venir voir le prêtre tous les jours pour ne pas faire n'importe quoi. pour pouvoir offrir, ouvrir son âme. Les exercices sont tellement puissants que ces exercices peuvent convertir absolument n'importe qui. N'importe qui fait vraiment bien les exercices de Saint-Ignace, en suivant les règles, en gardant bien le silence, se convertit et retrouve la voie du bon Dieu, ou la retrouve s'il l'avait perdue. Et donc l'exercice c'est ça, c'est 26 méditations, pendant 26 fois, ou 25 ou 26 fois, on va renouveler la même chose pendant les 5 jours des exercices Saint-Ignace, c'est-à-dire une conférence de 3 quarts d'heure, une méditation personnelle d'une demi-heure à la chapelle dans sa chambre, et une demi-heure de temps libre. Et on commence 25 fois. Et au fur et à mesure, on monte l'âme vers le bon Dieu, de façon que l'âme, encore une fois, puisse avoir toutes les armements, les protections surnaturelles pour pouvoir après retourner dans le monde. Et encore une fois, ces exercices sont tellement puissants que n'importe qui peut retrouver la foi catholique avec ces exercices. Voilà pourquoi il faut les prêcher. Et je remercie le bon Dieu de m'avoir amené par l'intermédiaire de M. Saglio qui m'a offert cette maison de retraite là-bas, qui m'a donné justement la possibilité de continuer de prêcher ces exercices pour le bien des âmes. Et avec la grâce du bon Dieu, les choses se développent. Nous avons eu 147 retraitants l'année dernière sur 11 retraites. Cette année, je pense qu'on va atteindre ou dépasser même les 200 retraitants. Pour 2016, avec 16 retraites, j'ai déjà 87 inscrits pour toutes les retraites en 2016, en comptant ceux qui ont déjà fait la retraite. Et vous voyez, donc, ceci nous aide à comprendre. On a besoin de ces choses-là. On a besoin de ces choses-là dans le monde moderne dans lequel nous vivons. C'est ça que vous devez comprendre, mes bien chers frères. Il faut vous mettre une chose dans la tête. Nous ne sommes plus au Moyen-Âge chrétien. Nous n'avons plus comme roi du pays Saint-Louis ou un grand saint. Nous n'avons plus une ambiance catholique. Nous vivons dans une espèce de monde de ténèbres qui ne cherche qu'une seule chose, détruire nos âmes. Et donc, pour empêcher, pour contrecarrer ce travail du démon, contre les âmes catholiques, il faut les exercices. Il faut ces 5 jours. Pendant 5 jours, on se coupe du monde, on se coupe de sa famille, on se coupe de ses activités professionnelles, on se met en silence, on réapprend à prier, on réapprend à se présenter devant le bon Dieu, à s'agenouiller devant le bon Dieu, pour remplir son âme de notre Seigneur Jésus qui est présent dans l'âme. Voilà ce que nous faisons, mes bien chers frères, et voilà ce qu'il faut faire. Alors demandez cette grâce pour tous ceux qui n'ont jamais fait les exercices, de pouvoir venir une fois. Quand vous avez l'entrée de la chapelle, ces feuilles jaunes, qui commencent à être bien connues de la science, et avec les différentes dates de retraite pour que vous puissiez justement venir faire les retraites. Alors je voudrais tout de suite aussi démolir certaines des objections contre les exercices Saint-Ignace. J'ai entendu énormément de bêtises contre les exercices. Il n'y a jamais eu d'attaque aussi forte que contre les exercices. Vous savez que la compagnie de Jésus, fondée par Saint-Ignace, était de loin l'ordre religieux le plus puissant dans l'Église catholique. On appelait cet ordre religieux les chiens de garde du pape, tellement ils étaient forts. Et la révolution, évidemment, n'a eu de cesse que de détruire les jésuites. Et on le voit même encore maintenant chez les catholiques, cette espèce de parti pris contre les jésuites, même parfois dans les milieux de tradition, et même parfois dans les milieux de tradition sédéventiste. Parce que les gens n'ont pas compris tout ça. Alors, quelle est la première objection? La première objection qui me semble certainement la plus importante, c'est que les exercices disent des gens qui ne les connaissent pas, manifestement ils n'ont jamais fait. Les exercices saint-ignatiens se sont destinés qu'à des gros pécheurs qui ne sont pas conversés pendant 20-30 ans. Ou à des païens qui n'ont jamais connu le bon Dieu. C'est complètement fou. Parce que justement, l'essence des exercices, c'est la vie méditative, la vie contemplative, basée sur l'oraison et la méditation. Et ça, c'est pas simplement valable pour les païens qui se convertissent, ou pour des païens ou des catholiques qui ont oublié le bon Dieu pendant 30 ans, c'est valable pour tout. Donc les exercices de Saint-Ignace sont une force qui, justement, permet de transformer en profondeur les âmes. Deuxième objection qu'on entend aussi de plus en plus souvent, surtout dans les milieux de tradition, c'est que les jésuites ont toujours été des grands ennemis de l'Église. C'est qu'on appelle les ennemis de l'Église appelaient le général des jésuites, donc le supérieur général des jésuites, le pape noir, avec mépris. En précisant que ils pensaient que c'était ce pape noir qui avait mené l'Église pendant des siècles et des siècles. C'est totalement faux. Ce sont des calomnies épouvantables contre les jésuites, justement pour empêcher les âmes de se convertir. Certes, rappelez-vous de ce qu'on dit, c'est du proverbe qui dit que plus on tombe de haut, plus on se fait mal. C'est exactement ce qui s'est passé avec Vatican II. Hein. L'ordre le plus important, l'ordre qui faisait certainement le plus de bien dans les âmes, c'était l'ordre de Jésus. Donc l'ordre qui a été le plus attaqué par le démon, c'était l'ordre de Jésus. Et l'ordre qui a fait le plus de dégâts après Vatican II, c'est précisément l'ordre de Jésus. Et aujourd'hui, je pense que dans le monde entier, vous ne trouverez même pas une dizaine de Jésuites qui ont encore conservé leur foi. Non seulement ils n'ont pas conservé leur foi, mais parce qu'ils ont été infidèles à leur mission, ils sont devenus les plus grands révolutionnaires pour attaquer justement l'Église catholique. Vous avez entendu parler de tous ces dégâts qui ont été faits en Amérique latine pour justement détruire la foi catholique. Peut-être de toutes ces personnes qui ont, de toutes ces idées qui ont tellement fait de mal, qui ont amené des dizaines de millions d'apostasies en Amérique latine, il y a les jésuites qui ont perdu la foi. N'oublions pas que la personne qui est en train d'organiser actuellement la destruction de la foi de millions de personnes à Rome, François est un jésuite, hein, faut oublier ça. Mais c'est pas parce qu'aujourd'hui les jésuites sont devenus les grands ennemis de l'Église que ça veut dire pour autant qu'il faut condamner l'ordre de Saint-Ignace. Il ne faut pas oublier que justement cet ordre a fait un bien considérable. Alors mes bien chers frères, je ne peux que vous recommander de cesser de venir suivre ces exercices de Saint-Ignace. Il ne faut pas attendre le dernier moment pour vous inscrire. Beaucoup de gens vont dire on va venir, mais je n'ai pas encore les inscriptions, donc il faut que j'ai les feuilles d'inscription pour pouvoir m'organiser et que les gens ne s'inscrivent pas au dernier moment, sinon on ne peut pas s'organiser justement. Donc demandons, mes bien chers frères, demandons à Saint-Ignace de Loyola, demandons à Très Sainte Vierge Marie de nous aider à comprendre toutes ces choses. Le plus important, c'est quoi? Le plus important, c'est la conversion de notre âme. C'est comme ça que commencent les exercices. Tout l'exercice, la première phrase, l'homme a été créé pour louer, honorer, servir Dieu, sauver son âme. Donc, dès le début, Saint Ignace nous replace devant ce qui doit faire toute notre vie. Le but le plus important de ma vie, sauver mon âme. Si j'ai sauvé mon âme, j'ai tout sauvé. Si j'ai perdu mon âme, j'ai tout perdu. Donc demandons, mes bien chers frères, toutes ces grâces à ta Sainte Vierge Marie pour que nous puissions non seulement sauver nos âmes, mais remplir nos âmes de cette force de notre Seigneur Jésus-Christ, cette force divine capable de tout transformer. Et pour que nous puissions, une fois que nous sommes remplis de cette force divine, que nous puissions transmettre cette force divine à nos enfants. Il n'est pas suffisant, mes bien chers frères, pour nous de conserver la foi. Il faut la transmettre. Est-ce que j'ai transmis? Justement ça, le crime de Vatican II, c'est d'avoir coupé la transmission. D'un seul coup, en 1962, avec l'arrivée de Vatican II, ça a commencé déjà un peu avant, dès la mort du pape Pie XII en 1958, on coupe la transmission. On ne cherche plus à transmettre, on ne cherche plus à former nos enfants, on ne cherche plus à transmettre dans le magistère, dans le ministère, dans le gouvernement, on ne cherche plus à guider les âmes, on ne cherche plus à sanctifier les âmes, on ne cherche plus à former les âmes dans la bonne doctrine catholique. Mais il faut, mes bien chers frères, que nos fidèles réagissent. Il faut que nos fidèles soient l'élite des catholiques. Il faut que nos fidèles soient l'élite des catholiques parce que justement, vous avez reçu beaucoup plus que les autres. Vous avez la messe traditionnelle, vous avez les sacrements comme vous le désirez, même si c'est peut-être pas parfait au niveau des horaires, au niveau de la chapelle et tout, on travaille avec ce qu'on peut, eh bien, le bon Dieu vous donnera les grâces. Et mes bien chers frères, utilisez ces grâces. Ne laissez pas le démon du protestantisme, le démon du rationalisme, le démon du libéralisme, du modernisme, du monde moderne pénétrer dans vos familles pour essayer de tout faire éclater de l'intérieur. Au contraire, demandez cette grâce, savoir mettre l'esprit de notre Seigneur Jésus-Christ dans vos vies. La meilleure façon, certainement, pour placer l'esprit de notre Seigneur Jésus-Christ dans nos vies, mes bien chers frères, c'est de suivre les exercices Saint-Ignace une ou deux fois, une fois tous les deux ans, une fois par an, pour arriver à avoir cette force, justement, cette force qui vient de la croix de notre Seigneur. Nous demandons toutes ces grâces par l'intermédiaire de notre Sainte Vierge Marie aujourd'hui. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.